Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là avec vous et qui vous accompagne au cours de ces prochaines minutes à l'intérieur de cette émission « C'est bon pour la santé » sur les ondes de Canal M. Le syndrome d'alcoolisme fœtal, qu'on appelle aussi le SAF, ça découle de la consommation d'alcool par la mère pendant la grossesse. On parle bien sûr ici d'une consommation qui est de grande quantité, qui est fréquente aussi. C'est un trouble qui est encore sous-diagnostiqué, sous-documenté ici au Canada, notamment au Québec, parce que ça semble être plus présent dans les provinces de l'Ouest. En fait, la documentation est plus présente. Et ça fait que d'établir la prévalence devient extrêmement difficile. Toutefois, selon la Société canadienne de pédiatrie, on évalue que le SAF... interviendrait, là, se présenterait dans un cas sur 1000, sur 1000 bébés chaque année. Ce que l'on sait par contre, c'est que en ce qui a trait à la consommation d'alcool et de drogue pendant la grossesse, c'est possible de sensibiliser la population et c'est aussi possible de faire de la prévention. Et j'en parlerai en deuxième partie d'émission avec France Landry, elle qui est coordonnatrice du service de garde La Ribambelle au centre mère-enfant du Portage. D'abord, je vous parle de l'impact du bruit sur notre santé. Le bruit, il est partout, que ce soit en ville, avec la circulation automobile, les camions, les motos, le trafic aérien, les discothèques, et aussi à la campagne, hein, quand on pense entre autres aux machineries agricoles, il est vraiment partout et il ne cesse d'augmenter dans les dernières années. Résultat, selon l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 10 % des adolescents souffrent de troubles auditifs. C'est énorme. Et j'en parle dès maintenant avec Julie Barry, audiologiste au Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches. Julie Barry, bonjour.
Bonjour.
Toujours selon l'Ordre des audiologistes et orthophonistes du Québec, on indique qu'au cours des dernières années, les consultations en audiologie et les évaluations de l'audition ont augmenté de 2,5 fois. Les prescriptions de prothèses auditives également sont à la hausse. Est-ce que ce sont aussi dans votre région des observations que vous faites?
En fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'augmentation. Il y a le nombre de gens qui ont des problèmes auditifs. Il y a aussi qu'on est de plus en plus d'audiologistes et que, en fait, la promotion de la santé, on essaie vraiment d'amener les gens à aller chercher de l'aide pour réduire les effets là, sur leur vie quotidienne, là, d'avoir des problèmes auditifs, qu'on parle de stylement dans leurs oreilles ou de diminution de leur audition ou d'intolérance à des sons forts, par exemple.
Bien sûr, quand on pense à l'impact du bruit sur la santé, tout de suite, on pense à la santé auditive, mais il y a quand même d'autres conséquences.
Oui, c'est ça. Souvent, on pense aux oreilles, on pense aux problèmes auditifs, mais il y a d'autres effets qui sont connus là, sur la santé. On appelle ça des effets extra-auditifs. Ça peut être, par exemple, sur le sommeil. Donc, si vous vivez proche d'un aéroport et qu'il y a vraiment beaucoup de bruit, les vols plus tard le soir, vous allez dormir moins bien, plus de réveil, donc moins de sommeil réparateur. Donc, ça peut influencer aussi votre stress. Donc, d'avoir du bruit, ça peut vraiment augmenter ce stress-là. Donc, c'est pas comme les yeux, les oreilles. Les yeux, on ferme les yeux, on voit plus rien. Les oreilles, bien, c'est toujours à l'affût des sons qui peuvent être là. C'est une façon de protéger, de s'il y avait une alarme sonore, quelque chose. Donc, ils sont toujours aux aguets, donc ça peut augmenter le stress aussi. Chez les enfants dans les écoles, s'il y a du bruit autour, la concentration va être plus difficile, ils vont être plus fatigués aussi, donc ça va avoir un effet sur les apprentissages. Donc ça, c'est des exemples qui sont là, mais on peut aller encore plus vaste là, avec ces effets-là. Là.
Oui, je lisais que ça pourrait également avoir des impacts sur la santé cardiovasculaire.
Oui, dans le fond, c'est le principe, comme je disais tantôt, avec le stress. Donc, si on est plus stressé, on va avoir plus de problèmes au niveau cardiovasculaire. Donc, c'est très plausible de penser que ça va avoir des effets comme ça. Là, donc,
Et si notre sommeil est moins réparateur, on peut avoir moins d'immunité aussi, système immunitaire plus déficient. Là, tout ça, ça fait boule de neige.
Oui, c'est ça. Puis souvent, ce qui est plate, c'est qu'il y a une inégalité de santé. C'est que les gens qui ont moins des gros revenus vont avoir des appartements ou des logements plus près des transports de routiers. Donc, vont avoir plus de bruit, donc vont avoir plus de symptômes. Et aussi, leur emploi qu'ils vont occuper vont être souvent plus bruyants parce qu'ils n'ont pas la possibilité de changer d'emploi. Ils vont prendre ce qu'ils vont trouver. Donc, il y a vraiment une inégalité de santé qui se trouve là avec le bruit, là.
Oui, parce que certaines personnes sont peut-être plus exposées et plus à risque que quand on pense, par exemple, à des travailleurs qui travaillent dans des usines, des milieux industriels.
Oui, c'est ça. Ils vont être plus exposés parce qu'en plus du bruit qu'on parle de l'environnement, on a tout le bruit au travail qui va être là, donc du bruit excessif, qui ça va avoir vraiment des impacts importants sur leurs oreilles. Et ces impacts-là vont avoir, en dehors du travail, vont avoir un impact sur leur vie quotidienne, que ce soit pour la communication avec leur famille, que ce soit pour d'avoir les cilements à endurer toute la soirée, le fait d'avoir des baisses temporaires d'audition, d'entendre moins bien après le travail. Donc, tout ça va avoir un effet sur la santé mentale, sur la santé aussi physique, là. Donc, ça a vraiment des impacts importants, là.
Maintenant, en ce qui a trait à la santé de nos oreilles, donc la santé auditive, bien sûr, on pourrait penser assez vite aux acouphènes. Est-ce que c'est dû au bruit?
Il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut avoir des acouphènes, mais parmi la plupart des gens, le bruit peut expliquer ces cilements-là qui vont arriver. C'est que l'oreille, une fois endommagée, peut produire justement des cilements, les acouphènes. Donc, la plupart des causes qu'on va trouver, ça va être en lien avec cette exposition-là au bruit, là. Donc, souvent, l'atteinte auditive va être présente avec ces cilements-là. Donc, on dit que 90 % des gens qui ont des acouphènes ont aussi des baisses auditives. Donc, souvent, ça va ensemble. Fait que, on va méprendre les effets que ça va avoir, là. Donc, on va dire que l'acouphène empêche de comprendre la communication, mais en fait, le fait d'avoir une acouphène est le symptôme d'avoir aussi une perte auditive et donc d'avoir la difficulté à comprendre les gens, là. Donc,
Et les enfants et les adolescents ne sont pas épargnés. Ils peuvent développer des acouphènes.
En fait, c'est ça. Tout le monde est à risque d'avoir baisse auditive ou symptômes auditifs, peu importe l'âge. Donc, chez les enfants, c'est souvent, on va être moins exposé à des sources de bruit, mais de plus en plus, on voit les jeunes qui écoutent les baladeurs durant de longues heures, donc qui vont commencer aussi à avoir des symptômes. C'est ce qu'on trouve de plus en plus, c'est que les jeunes rapportent des cilements dans leurs oreilles beaucoup plus que dans les cohortes qui étaient avant, là. Donc, on voit cet effet-là, là, quand c'est quand même parlant. Les symptômes comme les acouphènes, c'est les premiers symptômes qu'il y a un dommage auditif qui s'installe. Donc, ça, c'est plus alarmant, là.
Julie, je me mets à la place des parents qui nous écoutent en ce moment, s'ils veulent justement réduire ce qui pourrait affecter la santé auditive de leur enfant. De quelle façon on peut intervenir, les actions concrètes que l'on peut faire?
Mais je pense que tout passe par l'éducation. La musique, les baladeurs, c'est un plaisir. Donc, si on leur demande de ne plus écouter de musique, on coupe le plaisir. Donc, c'est un peu d'aider les enfants à choisir, dans le fond, leur volume, qu'ils soient confortables, d'avoir des bons écouteurs. Parce que d'avoir des bons écouteurs de qualité, bien, souvent, il n'y aura pas de distorsion. Les paroles vont être plus claires. Donc, l'enfant va être porté à moins monter le volume de ses écouteurs. Donc, souvent, pour un parent, je pense, c'est d'éduquer puis c'est d'entourer cette écoute-là pour qu'elle soit le plus sécuritaire possible, là, donc puis de choisir ça, puis de voir avec lui la durée aussi puis les moments d'utilisation, là, donc pour réduire, en fait, cette exposition-là. Là.
En expliquant, bien sûr, à l'enfant qu'au bout du compte, il préserve ses oreilles.
Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que pour les enfants, c'est plus difficile à expliquer qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est pour plus tard avoir une bonne audition quand même. Mais je pense que ça passe par cette éducation-là et non pas par la punition d'enlever le baladeur puis de couper ce plaisir-là, qui est la musique, qui est important, là.
Et ces recommandations-là s'adressent également aux adultes, pour ceux, et je m'inclus, qui aiment bien sortir le soir dans des bars qui, on le sait, où l'on retrouve de la musique plutôt forte. Est-ce qu'il faut faire attention, moins s'exposer?
Mais en fait, c'est un peu un choix personnel. C'est que si vous aimez sortir, bien, c'est peut-être de réduire le nombre de fois que vous sortez dans ces endroits-là très bruyants ou de faire des choix en fonction de... Si vous trouvez ça trop bruyant, de prendre des endroits qui sont plus silencieux, qui conviennent mieux à vos habitudes d'écoute, je dirais en quelque sorte. Donc, ça peut éventuellement changer aussi ce qu'on a à offrir à la population. Donc, si c'est les bars qui sont très bruyants finissent par être désertés, par des endroits qui sont moyennement bruyants puis qui permettent une meilleure communication, ça va influencer ces décisions-là. Souvent, on voit avec les restaurants qui sont très tendances, des grandes aires ouvertes avec beaucoup de bruit, le bruit de parole qui est là pour empêcher les communications. Donc, c'est faire ses choix aussi en fonction de ça pour bien comprendre, bien communiquer aussi, qui est l'objectif de bien entendre.
Et bien sûr, si l'on travaille dans un milieu de travail qui est bruyant, on prend nos précautions également.
C'est sûr, oui. C'est sûr qu'on essaye souvent de pouvoir être exposé le moins possible à ce bruit-là et de faire part aussi des symptômes qu'on observe quand on travaille quelque part, d'en parler, d'aller consulter, je vous dirais, d'aller voir un professionnel de la santé auditive, tel un nosologiste, dès les premiers symptômes, dès les premières inquiétudes. On peut vraiment avoir un impact important. On peut réduire les incapacités qui vont être associées à tout ça. Donc, quelqu'un qui travaille dans le bruit ou qui est exposé au bruit, ça vaut la peine de consulter et d'aller chercher de l'aide là, pour ses oreilles.
Là. Julie, justement, quels sont ces symptômes ou ces signaux d'alerte?
Le premier, c'est vous avez l'effet souvent de perte auditive temporaire. C'est un peu l'effet qu'on ressent quand on écoute la musique dans la voiture le soir après le travail. Le lendemain matin, quand on rembarque dans la voiture, on dirait que le volume est vraiment fort.
Ouais.
Parce qu'on avait une baisse qu'on appelle temporaire d'audition. Donc, on va récupérer avec un repos sonore l'audition qu'on a perdue quand on était exposé. Mais ça, cette baisse auditive-là, ça prédit les effets qui s'en viennent dans les prochaines années. Donc, ça va être la perte auditive qui va s'installer. Il y a les scillements dans les oreilles qui est vraiment un symptôme important. On a agressé le système auditif. Et si on commence à avoir des maux de tête, de l'intolérance au son, ça, c'est des symptômes qu'il faut vraiment être à l'affût si jamais ça commence là, dans...
Et bien sûr, on doit aller consulter. Et si on l'observe chez nos enfants aussi, si nos enfants nous expriment ces symptômes-là?
Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que les enfants vont avoir d'autres problématiques comme le fait qu'ils ne se mouchent pas, qu'ils vont faire des infections dans leurs oreilles. Ça va faire en sorte qu'ils vont avoir des baisses temporaires d'audition. Mais s'ils vous rapportent des douleurs ou ils vous rapportent des scillements dans leurs oreilles, ça vaut vraiment la peine d'aller consulter pour éviter les effets à long terme, là.
En terminant, Julie, je ne pense pas me tromper en disant qu'au Québec, il n'y a pas de loi qui encadre les environnements sonores plus bruyants. Est-ce que cette solution-là passe par la politique, en fait, la solution de préserver notre santé auditive?
Je pense qu'effectivement, il y a une partie qui peut être peut-être plus en lien avec les décisions du gouvernement ou d'imposer des normes ou des lois, peut-être plus restrictives, mais il y a aussi une conscientisation de chaque personne.
Ouais.
De ses actions, de ses activités, parce que c'est difficile de couper toutes les activités qui sont bruyantes. Si vous aimez faire de la motoneige ou c'est difficile de dire
de la musique,
faire.
Hein? Les mermozos derrière la console est musicien. J'en connais plein des musiciens. Donc, ça aussi, c'est un loisir ou une passion qui est à risque également.
Effectivement, quand j'encontre des musiciens, souvent, je leur donne le conseil, c'est de penser du repos pour les oreilles, comme n'importe quelle personne qui fait beaucoup de sport doit prendre du repos aussi pour ses muscles.
Ouais.
Donc, je fais un peu le parallèle avec les oreilles. Les oreilles travaillent fort durant la journée si elles sont exposées à la musique. Donc, de leur laisser un repos, des moments de silence dans la voiture, à la maison, pour pouvoir reposer, parce que c'est important le repos sonore là, pour les oreilles aussi. Mm-hmm. Là.
Eh bien, Julie Barry, tout ça était bien, bien intéressant. Vous êtes audiologiste, oui, au Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous parler.
Ça faisait plaisir.
Au revoir.
Bonne fin de journée.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Marie-France Landry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnatrice du service de garde La Ribambelle au centre mère-enfant de Portage, qui est un centre de on pourrait le dire comme ça, un centre de désintox,
pas
France
de désintoxication, c'est un centre de réhabilitation pour femmes toxicomanes, mères-enfants, entre autres.
Donc, le Portage ne s'adresse qu'à une clientèle féminine.
Notre centre à nous, le programme mère-enfant, actuellement, c'est une clientèle qui est féminine, mais Portage en soi, on a plusieurs services, dont on a un service dans les Laurentides pour les hommes, on a des services pour adolescents, mais le programme mère-enfant, actuellement, ce n'est que des mères et des enfants qui sont sur place ici.
Et bien sûr, on reviendra sur ce programme-là. On voulait parler ensemble, France, aujourd'hui, du syndrome d'alcoolisme fœtal qui découle de la consommation d'alcool en grande quantité, fréquente de la mère pendant la grossesse, mais qui est un trouble qui est sous-diagnostiqué ici au Canada, sous-documenté. On en parle très peu. Par contre, on sait qu'on peut observer quelques critères quand même pour établir un diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous en parler, même si les études là sont pas nécessairement extrêmement précises à ce sujet?
Moi, je tiens juste à spécifier qu'au programme Mère-enfant, nous n'avons jamais eu un enfant qui est arrivé avec ce diagnostic-là. Mm-hmm. Parce que, comme vous dites, au Québec, je pense que c'est beaucoup moins diagnostiqué que dans les provinces de l'Ouest. Les raisons, je ne sais pas. C'est clair que, bon, ce diagnostic-là, il a été mis parce que la mère consomme pendant toute la partie de sa grossesse. Et on sait très bien, d'après les écrits qu'on peut trouver, d'après les études, que ce syndrome-là, ça crée des particularités chez ces enfants-là. Ça crée des retards chez ces enfants-là au niveau cognitif, au niveau du cerveau. Il y a des problèmes au niveau du cerveau, puis ça peut aussi au niveau physique. Puis ce qu'on lit aussi, c'est que ça peut avoir des influences aussi sur le comportement de l'enfant. Mm-hmm. Puis cet enfant-là qui est atteint du syndrome d'alcoolisation fœtale, il grandit avec ce syndrome-là. Tu ne peux pas en guérir. Il y a des choses que tu peux mettre en place autour, mais tu ne peux pas en guérir, tu restes porteur. Mais ça, c'est la même littérature que tous et chacun peuvent faire là,
pendant les recherches.
C'est en plein ça.
Est-ce que l'on sait si... Ben, on en parle parce que on parle beaucoup de sensibilisation sur ce sujet-là, également de prévention sur la consommation d'alcool des femmes enceintes. Donc, on sait un peu que l'alcool a un impact sur le fœtus, sur son développement.
Ça c'est depuis plusieurs années. Et déjà, ils font une certaine sensibilisation quand ils préconisent de s'abstenir de toute consommation pendant la grossesse. Parce que ça peut être très tôt au début de la grossesse, ça peut être à la fin, ça peut être au milieu qu'il peut y avoir des conséquences. Ça, c'est clair que ça a des conséquences sur le développement de l'enfant. Ce qu'ils disent, c'est que l'enfant ne peut pas métaboliser l'alcool comme l'adulte. Et à ce moment-là, ça passe à travers le placenta. Et l'enfant ne peut pas l'éliminer non plus, fait que ça reste présent plus longtemps dans le ventre de la mère que lorsque nous, on boit et on a éliminé tout simplement l'alcool.
France, tout à l'heure, vous disiez, ça fait 20 ans que vous travaillez au Portage, dans ce centre de réhabilitation, et puis vous n'avez jamais vu, à travers toutes ces années, des enfants qui ont reçu un diagnostic officiel du syndrome d'alcoolisme fœtal. En même temps, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que si l'on reçoit un diagnostic, ben c'est irréversible, c'est-à-dire que l'enfant va grandir et se développer avec ce syndrome-là. Pourtant, chez Mère Enfant, il y a des stratégies tout de même là, que vous pouvez mettre en place pour amoindrir, pour que le comportement de l'enfant, que le développement de l'enfant se fasse mieux. Quelles sont ces stratégies-là que vous avez développées?
Bon, l'idée, là, ici, nous, on accueille les mères et c'est sur une base volontaire. Les mères doivent venir volontairement au programme Mère-enfant. C'est sûr que des fois, ils ont l'incitatif des centres jeunesse parce que lorsque leur consommation dépasse trop la moyenne, il y a les centres jeunesse qui, pour protéger les enfants, vont aller soit retirer l'enfant ou suggérer fortement à la mère de se reprendre en main. Et il y a toute une équipe de travail autour de ces enfants-là et de ces mères-là. Et juste en haut, au niveau du service de garde, on a une équipe d'éducatrices à l'enfance qui ont toute une formation académique. Et nous, c'est clair, et on le voit, les enfants, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent avec leur petit bagage, hein, parce qu'ils arrivent pour la plupart très parentifiés, ces enfants-là. Ils jouent le rôle du parent auprès de leur mère, oui, souvent. Et ça, les mères sont capables de le reconnaître, là. Ils ont l'humilité de le reconnaître, que c'est pas une situation régulière et qu'ils doivent renverser les rôles. Et nous, notre rôle, particulièrement à la ribambelle, auprès des enfants, c'est de renverser cette vapeur-là. C'est de remettre l'enfant dans son rôle d'enfant, lui permettre d'être un enfant, d'avoir du plaisir en tant qu'enfant, de retrouver sa naïveté en tant qu'enfant et de ne plus avoir ce lourd poids-là sur ses épaules. Et c'est très clair que à la ribambelle, on a un cadre autour de ça. Et le cadre, ça amène à l'enfant beaucoup de sécurité. Quand il est capable de se voir aller dans le temps, quand il est capable d'envisager de, bon, qu'est-ce qui se passe après la sieste ou qu'est-ce qui se passe après le dîner ou cette routine-là, c'est très rassurant pour nos enfants et n'importe quel enfant là qui demeure au Québec et tout ça. Il y a aussi, nous, on est au deuxième plancher. Au premier plancher, il y a une équipe d'intervenants toxico qui prend soin de la mère en tant que femme toxicomane et alcoolique. Et on a aussi une équipe d'éducateurs spécialisés qui sensibilise beaucoup la mère à son rôle de mère.
Oui.
Puis ils font un travail énorme à rétablir cette communication-là ou ce rôle-là auprès de la mère et de l'enfant.
À rétablir finalement les compétences parentales qui peuvent parfois, j'imagine, France, avoir été un peu écorchées suite à la toxicomanie ou à de l'alcoolisme.
Oui, c'est très clair. C'est très clair. La plupart, là... Les filles sont capables de reconnaître que, ben non, j'ai pas donné à mon enfant ce que j'aurais dû lui donner avant aujourd'hui. Je l'ai négligé, je l'ai laissé à lui-même. Ça, ils sont capables de le reconnaître. Et c'est ça le travail qu'on a à faire, c'est, OK, on en est conscient, tu en es consciente. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait?
Mm-hmm. Il est important de rappeler, France, que les mères qui viennent vous voir au centre mère-enfant, ce sont des femmes qui ont accepté de suivre ce programme-là auprès de vous, auprès de votre équipe. Donc, j'imagine que ça facilite la collaboration avec elles.
C'est clair, c'est clair. Puis, je vais vous dire, il y en a qui viennent pas parce qu'elles veulent venir, parce que les centres jeunesse leur font pression, puis c'est correct là, que les centres jeunesse, c'est valide qu'ils leur font pression, parce que tu ne peux pas élever un enfant tout en étant toxicomane et alcoolique. C'est,
oui,
c'est l'enfant qui paye la facture. Ça, on le sait très bien. Nous, notre rôle, lorsqu'elles arrivent, c'est qu'elles arrivent avec la pression des centres jeunesse, là, on le comprend. Nous, notre rôle, c'est de faire que cette personne-là, cette mère-là, elle croit en elle, puis elle croit que c'est possible de vivre sans cette béquille-là. Fait que c'est là, c'est toute la motivation. On joue avec la motivation de la personne. Et c'est ça notre rôle. Puis souvent, ces gens-là, c'est clair qu'ils n'ont pas beaucoup d'estime d'elles-mêmes, puis elles ne croient pas en elles, ils n'ont pas confiance, et bon. Puis ils ont la plupart une histoire derrière elles. Et c'est de renverser, comme on renverse la vapeur chez, ouais, les enfants, là, c'est de renverser cette vapeur-là auprès des mères.
Et de renverser parfois ce cercle-là qui se poursuit de génération en génération, celui, je parle bien sûr, de la consommation en grande quantité d'alcool ou de drogue.
Oui, oui. Il y en a qui ne viennent pas de milieux où est-ce qu'il y a eu consommation, mais la plupart viennent de milieux où est-ce qu'ils ont de consommation. C'est clair qu'une femme va consommer, et particulièrement lorsque tu continues de consommer parce que tu es enceinte, c'est que tu as un lourd bagage toi-même, tu as un lourd bagage de blessures avec lequel tu n'as pas réussi à faire la paix. Et c'est avec ça qu'il faut faire la paix. Puis il faut se dire, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Comment je la rebâtis ma vie? Il y a des mères qu'on a beau vouloir, puis on se le dit souvent, il y a des fois on veut plus qu'elles. Et des,
ouais,
fois, il faut en arriver au constat de se dire, ben non, on peut pas l'accompagner plus loin que ça. Et à ce moment-là, il faut intervenir auprès des centres jeunesse. Et c'est eux qui prennent des décisions par rapport aux enfants.
Et vous serez là pour la réaccueillir peut-être dans quelques années, quelques mois.
Oui, oui. Et même, on en a une qui est partie dernièrement, là, puis fait à peine un mois, en se disant, « Hey, je suis prête, je suis capable, je les acquis finalement, ma consommation n'était pas si importante. » Et elle l'a déjà rappelé en disant, « Non, non, là, je me rends compte que non, j'en ai un vrai problème et je veux revenir.
Mm-hmm. »
Et elle, on va la reprendre assez vite, merci, parce qu'elle est consciente là, mm-hmm, que finalement, elle a besoin d'aide.
France, vous recevez des mamans qui en sont à leur première grossesse, mais j'imagine d'autres qui vivent leur troisième ou
quatrième
grossesse.
Oui.
Est-ce qu'elles peuvent venir avec leur premier enfant?
Pour avoir déjà vécu l'expérience, parce qu'on a déjà accueilli des mères avec 3 ou 4 enfants. Et ça, souvent, on les mettait en situation d'échec parce que le bagage était tellement lourd de la mère, le sentiment de culpabilité était tellement lourd aussi, les enfants avaient un gros bagage et ces filles-là abandonnaient. Fait que depuis quelques années, on limite le nombre à 2. Une mère peut venir avec 2 enfants. Si elle a des enfants à l'extérieur, elle les reçoit de visite, en visite la fin de semaine. Ils peuvent rester accouchés la fin de semaine et tout ça, dépendant de l'âge des enfants aussi, parce que ça reste que c'est un centre de femmes. Et bon, je verrais mal un petit garçon de 14 ans venir coucher avec sa mère ici. Mais il y a quand même des autorisations de sortie où est-ce qu'ils peuvent se voir à l'extérieur. Mais actuellement, on a une maman elle a 3 autres enfants. Les 3 autres enfants viennent passer la fin de semaine avec elle. Mais la semaine, elle est seule avec son petit bonhomme qui est ici.
Et suite au programme, vous les laissez partir, voler de leurs propres ailes. Est-ce qu'il y a un suivi?
Oui, oui. Puis il fait toute la différence. Parce que on sait qu'ici, arrêter de consommer, c'est facile. C'est pas bien vu, consommer. Hein? Puis ce qui les attend, c'est dehors. Et les filles le disent aussi. Puis nous, on leur dit, ta vraie thérapie, c'est quand tu vas être confronté à te promener dans le Vieux-Montréal, une belle après-midi d'été, où est-ce qu'il y a des gens à la terrasse assis avec de la bière où tu vas passer puis il va y avoir une odeur de pote quelque part et tout ça. Fait qu'il y a tout un suivi. On a tout un suivi post-cure. On a une équipe au niveau du suivi post-cure où est-ce que les filles ont des rencontres individuelles par semaine, une rencontre individuelle par semaine, une rencontre de groupe par mois. Et si le besoin est plus grand, elle peut revenir, elle peut redemander de l'aide. Et ça, on les accompagne sur une période de 2 ans. C'est sûr qu'à l'intérieur du 2 ans, là, on espace le groupe puis on espace les individuels.
Oui.
Mais c'est sûr que l'accompagnement à l'extérieur fait toute la différence.
France Landry, vous êtes coordonnatrice du service de garde La Ribambelle au Centre Mère-Enfant de Portage. On mettra votre site www.portage.ca sur notre site. Merci beaucoup pour cette discussion.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée.
Rémi Hermoso à la mise en onde. Qui protégera ses oreilles de musicien à l'avenir? Marianne Paquette au micro. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on se donne rendez-vous demain, 14h, pour la dernière de C'est bon pour la santé de la semaine. On parlera entre autres du rôle du sport dans la réadaptation et également des amygdalites avec l'infirmière Jocelyne Gadebois. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.